Aujourd'hui, la parole au Grenache, un cépage qui donne des rosés généreux.
Ah, ici, côté soleil, je suis servi. J'aime quand il fait encore chaud en fin de journée. C'est comme ça qu'on apprécie ma fraîcheur et ma vivacité. Vous ne seriez pas bien avec moi, là, les pieds dans l'eau ?
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
Dans RTL Bonsoir, Alex Vizorek vous présente sa visioconférence.
François Bayrou s'est dit prêt, si besoin, à figurer à la fin de la liste de la majorité aux européennes.
Sympa, mais entre nous, je pense que Valérie Ayer et ses colistiers n'ont pas besoin de l'expérience de François Bayrou en matière d'élection. Ils peuvent très bien arriver à perdre tout seul.
La visioconférence, c'est tous les jours à 18h35 dans RTL Bonsoir.
RTL. RTL, il est 14h01. Et nous sommes avec Lisa Marie Marquez pour les toutes dernières infos. Lisa Marie, elle a une. Gérard Depardieu en garde à vue depuis ce matin pour agression sexuelle.
Déjà mis en examen pour viol, l'acteur a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire parisienne pour s'expliquer après deux plaintes récentes pour agression sexuelle. Des faits qui, selon les femmes qui l'accusent, ont eu lieu sur des tournages en 2014 et 2021.
Et puis après Viry-Châtillon, après Grande-Synthe, après Montpellier, c'est la ville de Châteauroux qui se retrouve depuis ce week-end sous le choc de l'ultra-violence des jeunes. On en parle dans les auditeurs, ont la parole.
Oui, un adolescent de 15 ans, Mathis, a été tué de plusieurs coups de couteau samedi en fin d'après-midi. Un mineur est actuellement placé en garde à vue avec sa mère. Ce jeune suspect, également âgé de 15 ans, comme la victime, était connu des services de police pour des vols sous la menace d'un couteau. Selon les premiers éléments de l'enquête, des insultes et des moqueries seraient à l'origine du drame.
Et puis à l'étranger, l'espoir d'une trêve enfin dans la bande de Gaza.
Le Hamas doit se prononcer aujourd'hui sur une proposition de cessez-le-feu associée à une libération d'otages lors d'une réunion tripartite avec le Qatar et l'Égypte au Caire, près de 7 mois après l'attaque du 7 octobre et la riposte de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne.
Et puis tout de suite un point sur la météo.
Demain, mardi, le temps deviendra de nouveau très instable sur toute la France avec nuages, éclaircies et averses. Les averses seront plus fréquentes entre le Golfe du Lion et la frontière belge. Les températures toujours fraîches, 7 à 12 degrés prévus le matin.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet. Un adolescent, disiez-vous tout à l'heure, Lisa Marie, et sa mère entendue par la police à Châteauroux après la mort d'un jeune de 15 ans poignardé ce week-end. Nous sommes avec Joël au 3210. Bonjour Joël.
Bonjour à vous tous, merci de me recevoir.
Où êtes-vous, ma chère Joëlle ?
Eh bien écoutez, c'est dans la région parisienne, dans les Yvelines.
Dans les Yvelines. Je vous écoute, alors réaction à cette flambée de violence.
Ma réaction, j'ai 74 ans, je trouve que j'ai la trouille au ventre, tous les jours quand je sors, je me demande ce que je vais voir. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma pomme. Et quand je vois que ces adolescents qui font tout et n'importe quoi, des vols, des cambriolages, des assassinats, des menaces, j'en passe et des meilleurs, qui ne sont pas punis, je suis outrée. Un gamin qui fait ce que vient de se passer encore à Châteauroux, je dis comme un adulte, il doit être puni. Et aujourd'hui, j'ai 74 ans, je me répète, quand nous étions gamins, on allait dans les rues, si jamais l'un ou l'autre des personnes laissait traîner quelque chose, nous ramassions. Aujourd'hui, on vous balance tout par les fenêtres. J'ai honte de ma France. De voir les saletés qu'il y a et du comportement de ces jeunes gamins qui sont sous l'emprise de l'alcool et que les parents laissent faire.
Vous avez le sentiment que aujourd'hui les parents ne sont pas à la hauteur ?
Absolument. Mais alors 1000%.
Du haut de votre expérience, vous assistez à une dégradation du climat social des.
Absolument. On ne sait plus vous dire bonjour, on ne sait plus vous excuser, vous ne savez plus demander pardon, vous êtes prioritaire partout. Même quand je roule, j'ai peur.
Oui.
J'ai peur, mais c'est pas normal.
Mais Joël, j'entends ce que vous dites, ce discours, on l'a déjà entendu. Mais aujourd'hui, on parle davantage de l'ultra-violence. Est-ce qu'il vous arrive de vous promener du côté de chez vous, dans le sud des Yvelines ou ailleurs, et de vous dire, tiens, là, ça pourrait exploser à tout moment. Tiens, ce personnage que je vois face à moi, celui qui est sur la rue, j'ai changé de trottoir, à tout moment, ce type-là peut faire quelque chose de... Vous avez cette sensation, parfois ?
Absolument, oui. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ose plus aller me promener toute seule.
Oui, c'est grave là si vous en êtes là, Joël.
Tout à fait, parce que j'ai peur. J'ai peur.
Vous avez déjà été agressée ?
Non, jamais que je touche ma tête et mes cheveux que je perds, pour que ça n'arrive jamais.
Ouais.
Mais j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes petits-enfants.
Ne bougez pas, Joël. Kamel a fait le 3210. Bonjour mon cher Kamel.
Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs, bonjour à vous tous.
Est-ce qu'il vous arrive aussi de, je sais pas où vous habitez, mais d'avoir peur simplement dans votre quotidien ?
Alors, j'habite la région parisienne, dans le 93, département bien connu. Je crois que là, il faut se poser question les uns et les autres. Notre société, ce qu'elle est devenue, et je crois que, moi je rejoins à la fois Patrice, Denis et Joël, quand ils parlent et quand ils disent ce qu'ils ressentent, je crois qu'on a tous une part de responsabilité. Et à commencer, si vous me permettez, moi je dis que, par exemple, de redonner du sens à nos vies, à cette population, à toute la population française, de remettre, par exemple, je vous donne cet exemple, pourquoi ne remettons pas en place le service militaire ? Enfin, le service militaire, le terme de militaire me gêne un peu, mais pourquoi ne redonnons pas ça aujourd'hui, de manière à ce que, en ce qui me concerne, j'ai vécu, nous portions le sac des dames, nous tenions la porte aux dames, je suis issu d'une fratrie de 9 enfants. Il n'était jamais question de ramener le moindre objet à la maison si nos parents ne l'avaient pas acheté. Vous voyez, c'est toute une discipline, c'est tout un état dans notre société qui est en déliquescence, et je suis plutôt un garçon optimiste, et je me dis qu'il faut à un moment se réveiller. Mmh. Il faut vraiment voir les choses comme elles sont.
Un adolescent et sa mère entendus par la police à Châteauroux, Kamel, après la mort d'un jeune de 15 ans poignardé ce week-end. Là, on est dans le muscle. On parle même pas des incivilités, ni de vol, ni de pétards, ni de points de deal. Là, on parle de l'ultra-violence. La question, c'est que ce genre de choses... Alors, attention, je fais pas de statistiques, moi, mais considérons que ce genre de choses arrive de plus en plus fréquemment, faut-il, comme dans certains États des États-Unis, juger ces adolescents de 15 ans, 16 ans, 17 ans criminels comme des adultes, Kamel ?
Alors, je ne dirais pas comme des adultes. Je crois qu'il faut passer par ces champs d'observation. Vous savez, à une époque, il existait des centres d'observation de la délinquance. Et là, on pouvait voir les choses et agir très rapidement. Mais je crois que c'est toute la société qui est impactée. Effectivement, je crois qu'on est trop laxiste. Hein, c'est le manque de respect, comme le disait à l'instant Joël, c'est tout part en
déliquescence. Est-ce que vous, Kamel, dans le 9-3, il vous arrive aussi de sortir et d'avoir des petites appréhensions, voire la trouille au ventre, dans certains endroits où vous n'aviez pas peur avant ?
Il y a des endroits, effectivement, qui existent, de ce qu'on appelle ça les points de deal, voyez-vous. Si vous approchez, bien sûr, on va vous regarder d'une certaine manière, etc.
Et puis, il y a les horaires aussi. Vous hâtez le pas, vous accélérez le pas.
Oui, et oui, je vais accélérer, je vais éviter des endroits, mais c'est vrai. Je crois qu'il faut se remettre, il faut remettre en place notre société, et puis effectivement élever les condamnations par rapport à tout ce qui est en train de se passer.
Bien, c'est marrant parce qu'on a Joël qui est dans l'Ouest, Kamel qui est au nord-est de Paris, dans le Seine-Saint-Denis, qui disent à peu près la même chose, mesdames, messieurs. Hein, bonjour, Frédéric, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour Eric.
Vous êtes où, vous, Frédéric ?
Moi, je suis dans le nord de la France, à Péronne, exactement.
Restez avec nous, on va voir ce qu'il en est à Péronne, à tout de suite. Voilà.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Eric Brunet sur RTL.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling, vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort mercredi au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL.
RTL.
RTL présente l'exposition Achille et la guerre de Troie au Musée de la Romanité à Nîmes. Plongez au cœur de cette épopée mythique à travers une centaine d'œuvres exceptionnelles et une fresque numérique immersive. Achille et la guerre de Troie, actuellement au Musée de la Romanité à Nîmes, avec RTL.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Eric Brunet sur RTL.
Bonjour, je viens d'entendre que les parents n'étaient pas à la hauteur. Moi, je suis pas complètement d'accord. Je pense que on est aussi dans une maintenant la nouvelle génération de parents qui défendent les comportements inadaptés de leurs enfants. À l'école, moi, quand j'étais gamine, je faisais une bêtise, et je prenais le double à la maison. Donc, en fait, je pense qu'il y a, au-delà du fait que certains parents sont complètement dépassés de la situation, je pense aussi que il y en a beaucoup qui les élèvent mal, tout simplement.
Voilà un message qu'on vient de nous laisser. Un adolescent de 15 ans, Mathis, a été tué de plusieurs coups de couteau dans le quartier de Saint-Denis à Châteauroux. Le suspect rapidement interpellé. Un jeune de 15 ans, il est afghan, situation régulière, actuellement toujours en garde à vue, connu des services de police pour des faits de vol aggravé avec violence. Il avait déjà été placé sous contrôle judiciaire il y a quelques jours, le 22 avril dernier. Frédéric est avec nous. Bonjour mon cher Frédéric, vous êtes à Péronne dans le Nord. Réaction, faut-il d'ailleurs juger ces jeunes criminels adolescents comme des adultes?
Bonjour à tous. Moi, je pense que du moment où ils font des actes de barbarie, c'est des actes que même certains adultes, ou même la plupart des adultes ne feraient pas. Il faut les juger comme des adultes. Il n'y a pas de question à se poser.
Linda, bougez pas, Frédéric, je vous reprends, mais je vais prendre Linda également, qui m'appelle, je crois, d'Alsace. Bonjour, Linda.
Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs et bonjour à vous.
Je vous pose la même question. Faut-il juger ces adolescents criminels à considérer qu'ils soient condamnés, hein? Faut-il les juger comme s'ils étaient des adultes?
Bien sûr, donc je suis tout à fait d'accord, hein. À partir du moment à 15 ans quand même, ils savent ce que c'est que d'avoir déjà une arme sur soi, ils savent que c'est pas correct, c'est pas bien, et encore pire, commettre un crime. Et ne serait-ce qu'ils fabriquent, je sais pas, l'État, des prisons spéciales pour mineurs dans ce cas, s'ils veulent pas être avec des adultes ou je ne sais quoi.
Vous êtes où, vous, Linda?
Moi, je suis à Strasbourg.
Vous avez entendu Joël, qui est toujours avec nous, hein, qui est dans le sud des Yvelines, qui nous dit aujourd'hui, j'ai peur, je ne sors plus toute seule de chez moi, ou j'évite de le faire autant que faire se peut. Est-ce que vous, Linda, à Strasbourg, vous reprendriez cette phrase à votre compte?
Bien sûr, après ça dépend l'heure, si c'est en journée où il y a du monde, bon, j'aurais moins peur. Mais comme je dis à ma nièce, parce que ma famille, elle est dans la région parisienne, et j'ai toujours à ma nièce qui a 13 ans, j'ai dit, tu sais maintenant, Kaina, s'il y a quelqu'un qui t'embête à l'école, ne lui réponds pas, parce qu'on a peur pour nos proches. Même si la personne te dit des bêtises, je sais pas, t'es pas belle, t'es ceci ou t'es cela, ne lui réponds pas. Parce qu'on a peur que si elle répond, ce sont que des enfants, l'autre lui répond aussi, et ainsi de suite. Et puis ça va commettre par des drames tels qu'on l'entend.
Ce qui est dangereux, c'est le dingue, c'est-à-dire la réaction disproportionnée, folle, pas prévisible. Vous avez peu raison de lui dire ça. Parce que maintenant, quand on voit les faits divers qu'il y a autour de nous, souvent ça part de rien du tout, un regard de travers. C'est assez terrifiant. Beaucoup d'appels, pardonnez-moi, je fais tourner la parole. Cyril, bonjour Cyril.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Que fait-on de ces mineurs de 15 ans ultra-violents, récidivistes et qui parfois tuent ?
Bah écoutez, moi personnellement, à partir du moment où on sort de chez soi avec une arme blanche, déjà il y a un problème. Qui sort de mes enfants ne sortent pas de la maison avec une arme blanche sur eux. Enfin, faut quand même pas. On marche sur la tête. Alors effectivement, vous disiez à l'instant que tout peut déraper. Une incivilité, faut quand même faire le lien. Une incivilité, tous les jours sur la région parisienne, on se fait couper la route, machin. Et si on a le malheur de dire qu'on est dans notre bon droit, on peut s'en prendre une, physiquement, parce que les mecs sont complètement hystériques. Donc, je pense que tout fout le camp quand on est en train de... Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais quand on voit que les profs, quand ils foutent une mauvaise note à un élève ou qu'ils l'excluent, c'est les parents qui viennent cogner le prof. C'est pas comme si ça arrivait jamais, ça, en fait. C'est en train de devenir ultra-violent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut laisser faire ça ? Ou est-ce qu'il faut donner l'exemple ? À un moment donné, je pense que 15 ans ou 16 ans, le gamin, il sort avec un couteau, pourquoi faire ?
Ne bougez pas, Cyril. J'ai une question à poser à Joël, là, parce que ça m'a tourneboulé ce que vous m'avez dit tout à l'heure, Joël, en m'expliquant que dans le sud des Yvelines, vous sortiez plus de chez vous certains jours. Vous n'avez pas parfois, vous qui avez 74 ans, envie de, je sais pas, de vendre ou de résilier votre bail ou de vendre votre appartement ou maison et d'aller dans la Creuse ou dans la Dordogne, dans un petit village paisible, parce que...
Absolument d'accord avec vous. Je ne rêve que d'une cabane en bois. Avec de l'eau, du pain, que j'irai peut-être chercher, si je n'ai pas peur. Sinon, je me débrouille avec ce que je trouverai autour de moi. Mais j'ai franchement peur. Et je reviens au nom, le nom m'échappe de la personne qui disait, il y a une première chose qu'il faudrait que les parents fassent le matin, c'est qu'on dise bonjour. Bonjour. Les trois quarts des parents sont partis travailler. Les enfants sont seuls devant leur café. Quand ils rentrent, les gamins de l'école, ils n'ont pas les parents, ils sont en train de travailler. J'ai été une des premières femmes, parmi les femmes qui voulaient la liberté, le droit de travailler. J'ai travaillé, mais j'ai toujours éduqué mes enfants dans le droit chemin. J'ai travaillé peu de temps dans un collège. J'avais demandé à la directrice, parce que je voyais des petites choses qui m'interpellaient, pour mettre au tableau à chaque rentrée scolaire, je faisais le tour des classes, je me présentais, et j'écrivais au tableau, bonjour, merci, au revoir, excusez-moi, s'il vous plaît, je ne dois pas être en retard, à moi d'avoir un bon justificatif. tous les ans. J'ai encore mes deux derniers petits-enfants, quand je les ai avec moi, on s'assoit par terre, et ce, depuis leur naissance, on s'assoit par terre. Mamie, tu ne vas pas encore recommencer. Si mamie, elle recommence, que doit-on faire ? Mais on connaît ton histoire. Non, je veux vous entendre. On doit dire bonjour si on bouscule quelqu'un. S'il y a un papier qui tombe, on doit le ramasser. J'en passe des meilleurs. Mais remettons
c'est une bonne,
de
c'est une bonne
de
mamie, c'est une bonne grand-mère, Joël. C'est une bonne grand-mère, mais vous avez raison, ça commence par les fondamentaux. Mais moi, je veux pas que vous viviez dans votre coin, là, dans le sud des Yvelines, avec la trouille au ventre, en vous disant « je ne sors pas aujourd'hui si ce n'est pas indispensable ». Parce que ça, Joël, ça n'est pas la vie. C'est pas acceptable. Vous devez vivre, respirer, regarder les couchers de soleil, un petit arc-en-ciel de temps en temps, une pluie fine, voilà. Je ne veux pas que vous restiez chez vous planqué parce que vous avez la trouille, c'est absurde. Il faut changer ça, Joël. Il faut pas se résigner. Belle journée à vous tous. Vous avez été très nombreux à appeler sur ce sujet de cet adolescent et de sa mère entendu par la police à Châteauroux après la mort d'un jeune de 15 ans poignardé ce week-end dans ce département si paisible de l'Indre. Cyprien Sini vient d'entrer dans le studio. Bonsoir Cyprien.
Bonjour à tous.
De quoi va... Bonsoir, mais pourquoi je vous dis...
Parce que l'émission s'appelle RTL Bonsoir, certainement.
Voilà. De quoi va-t-il être question dans RTL Bonsoir ?
Entre 18h et 20h, Gérard Depardieu en garde à vue. Évidemment, les toutes dernières infos du service police-justice de RTL. On vous parlera également de ce nouveau carburant, deux fois moins cher que le sans-plomb. On va tout vous expliquer, puis vous découvrirez également l'enfer des sectes françaises avec un journaliste djihadiste qui s'est infiltré chez Raël notamment, sans oublier le grand débat du soir et le grand quiz, avec à gagner un magnifique week-end pour deux personnes dans un relais château. Pour vous inscrire au jeu d'ailleurs, je vous rappelle 3210 3210, vous appelez dès maintenant ou vous envoyez bonsoir au 64 900 par SMS.
Très bien, merci beaucoup Cyprien Sini. Et dans un instant, nous allons aller rejoindre l'auditeur ou l'auditrice du bout du monde, Lisa Marie.
Oui, aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de Lucas, notre auditeur qui fait le tour du monde en stop.
Ah, oui.
Vous vous souvenez? Ben oui, ça fait 450 jours qu'il est parti de France. On doit deviner où il est à l'heure actuelle et on a un indice sonore pour ça.
Je sais, j'ai trouvé.
Déjà?
Oui. Ah oui, j'ai trouvé, fastoche.
Ben, je ne l'ai pas du tout. Là.
Mythe, légende. Tout, tout, tout. Vous n'êtes pas bon en hard rock.
Ah non, je ne l'ai pas.
C'est le pays d'origine
de
ce groupe.
Black and Black.
C'est quoi le groupe?
ACDC.
Bah, on ne peut pas le dire.
Je le dis, Eric.
Bon, il a fait
et si vous trouvez... et si, il fait du bateau stop aussi.
Ah ouais,
et si vous trouvez où se trouve Lucas, vous nous envoyez un message sur l'application RTL pour tenter de remporter un guide du routard.
A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, nous parlerons du 30 avril 1945 et du suicide d'un des pires dictateurs de notre histoire, un certain Adolf Hitler. Franchement, il aurait pu faire ça plus tôt.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, avec AG2R, la mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça chipote pas là.
Ça chipote pas là où?
Chez Lidl, en ce moment, les 6 chipolatas sont à 2,49€ les 330 grammes au lieu de 3,49€, moins 28%.
2,49€ les 6 chipolatas.
Et c'est du porc français, hein?
T'es mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 7,55€ le kilo, transformé en France, offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Enzo! Comment ça se passe au standard? Est-ce qu'on a trouvé la destination?
Oui, tout à fait. C'est Odile de Dunkerque qui remporte le guide du routard de l'Australie.
De l'Australie, c'était ACDC. Et je me suis trompé. C'était Hell's Bells.
Hell's Bells.
Et pas du tout Back in Black. C'était Hell's Bells d'ACDC.
Groupe ACDC mythique. Originaire d'Australie.
D'Australie. Une légende ACDC. Je les ai vus il y a très longtemps au Stade de France. Inoubliable. Allez, nous partons donc en Australie, les amis.
L'auditeur du bout du monde.
Et nous sommes avec...
Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour Lucas.
Lucas, est-ce que tu nous entends?
Lucas est-il là? Oui Lucas.
Ah, il est en Australie, hein?
Oui.
C'est loin.
Qu'est-ce qui se passe Lucas? Il faut qu'on retrouve Lucas, mesdames, messieurs. Donc Lucas, on peut...
Oui, pour vous rappeler, Lucas, ça fait 450 jours qu'il est parti de France et il s'est donné comme objectif de relier la Nouvelle-Zélande en autostop. Donc il a parcouru, je ne sais plus combien de pays, il va nous le dire, mais
Moi je me souviens que nous lui avons déjà parlé 3 ou 4 fois, notamment il était en Asie.
En Thaïlande, en Chine.
En Chine, oui.
Oui, et là donc il est en Australie. Lucas, est-ce que tu es là?
Oui.
Oui, je vous entends, vous m'entendez?
Très bien. Formidable, on t'entend, la connexion
Très bien.
Est revenue.
Bon, alors Lucas, racontez-nous où vous êtes, ce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe autour de vous, faites-nous vivre la carte postale s'il vous plaît Lucas.
Parfait. Donc là, il fait nuit en Australie. Il faut savoir, il y a 8 heures de décalage horaire et je me trouve actuellement sur un bateau. Voilà, j'ai rencontré un merveilleux Australien. Il m'a invité sur son bateau et donc là, on est dans un endroit très calme, très très paisible et on a remonté la rivière sur son bateau, donc assez formidable. Et il y a une magnifique lune rousse autour de nous, donc il y a vraiment une magnifique le ciel est magnifique, on voit tous les astres, c'est grandiose.
Mais là alors, tu parles d'un bateau, tu as dû prendre un bateau aussi pour relier l'Australie, puisque la dernière fois qu'on t'a quitté, tu étais en Asie.
Oui, donc bateau stop pour aller en Australie.
J'ai essayé, mais malheureusement, il y en a pas. En fait, il faut savoir que je n'ai aucune expérience en voile, et donc je me suis retrouvé au Timor oriental. J'ai recherché des bateaux. Il y a plusieurs personnes qui partent, mais à chaque fois, ils prenaient quelqu'un qui avait de l'expérience en voile, et moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, après plusieurs semaines de recherche, je me suis résigné à prendre un avion. Il faut savoir qu'il y a que 500 km entre le Timor oriental et le nord de l'Australie, et 50 minutes de vol. Mais voilà, je suis arrivé en Australie, et là, j'ai déjà fait plus de 4000 km d'autostop en Australie.
Et alors là, vous êtes dans quel coin d'Australie, sur votre bateau, sur votre rivière là? Vous êtes dans le nord, dans le sud? L'Australie, c'est grand comme l'Europe.
Tout à fait, ouais, je suis dans le sud de l'Australie, donc en fait j'ai traversé tout du nord au sud. Si vous voyez, je suis entre Adélaïde et Sydney sur la rivière Murray, qui est une des plus grandes rivières de l'Australie. Et donc voilà, je suis sur cette rivière qui est vraiment magnifique et ça se passe très bien.
Mais comment vous faites pour vivre là? Parce que ça doit commencer à vous coûter un peu cher. Ça fait combien de temps que vous êtes parti, Lucas, de France?
Ça fait 15 mois que je suis parti, quasiment 450 jours, et donc faut savoir que la vie dans différents pays, ça coûte plus ou moins cher. Il y a des pays comme l'Inde ou l'Indonésie, on peut manger pour 50 centimes au restaurant. Là, en Australie, ça coûte un petit peu plus cher, c'est bien plus cher que la France. Et il faut savoir que j'ai différents sponsors qui m'accompagnent dans cette aventure et qui me permettent de voyager, de payer les frais de ce voyage.
Et Lucas, on se rapproche du but, puisque je le disais, hein, votre objectif depuis le départ, c'était donc de relier la Nouvelle-Zélande.
Tout à fait, ouais. Donc là, c'est l'avant-dernier pays, l'Australie. Et donc ensuite, la Nouvelle-Zélande, l'objectif final que je compte y être, voilà, le mois prochain. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'arriver au bout. Et là, déjà, ma prochaine destination, ça va être d'arriver à Sydney. Je suis environ à 1000 km de Sydney. Donc c'est déjà un immense cap de relier à Sydney, le mythique opéra. Et voilà, donc on s'approche du bout du monde.
Ok, ouais. Alors parlez-nous de l'Australie quand même, parce que vous êtes là pour ça. C'est un pays continent, c'est gigantesque, avec des zones désertiques, un gigantesque désert, avec au nord des zones extrêmement chaudes, avec la barrière de corail, le surf, les requins, des villes incroyables, Adélaïde, Sydney, cette capitale Canberra dans le sud, et puis un sud qui est très très frais, même un tantinet froid dans ce gigantesque. Parlez-nous de ce pays.
Tout à fait, vous avez bien raison, parce que là en fait c'est l'hiver en Australie, l'hiver approche, les saisons sont inversées comme je me trouve dans l'hémisphère sud, donc faut savoir que là il fait aux alentours de 10 degrés, ça va descendre à 5 degrés dans la nuit, mais c'est vrai que le pays est absolument gigantesque. Faut savoir que entre Darwin qui se trouve tout au nord et Adélaïde, il y a 3000 km et en fait il y a une ville de 20 000 habitants au milieu, sinon il y a rien du tout, c'est l'immense bush australien, des déserts de roches rouges, de temps en temps il y a des kangourous, il y a énormément d'émeus et énormément d'animaux qui sont endémiques de l'Australie, qu'on voit nulle part ailleurs. Par exemple, là sur la rivière, il y a énormément de pélicans, des cygnes noirs et tout type d'oiseaux, des hérons, des canards, mais qui ressemblent à rien du tout de ce qu'on a en Europe. Donc c'est vraiment fascinant de pouvoir voir tous ces animaux et ces paysages qui ressemblent en rien de ce qu'on est habitué.
Formidable. Vous avez vu des kangourous?
Oui. J'ai eu plusieurs. Donc, il y a les wallabies et les kangourous. Et donc, quand j'étais dans le centre de l'Australie, il y avait un petit jardin botanique où les kangourous étaient en liberté. Et j'ai pu les voir au coucher de soleil. C'était vraiment éblouissant et mythique d'en voir en Australie.
Merci.
Et il y en a énormément.
Merci beaucoup, Lucas. Et on vous reprendra quand vous serez à Wellington, par exemple.
Le mois prochain. Et on peut suivre les aventures de Lucas sur Instagram. Ça s'appelle Pouce pour un pouce, comme le pouce.
L'autostoppeur, voilà. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Eric. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la mort de Joséphine Bernard. Peut-on croire à son suicide? Non, on n'y croit pas. C'est tout de suite dans l'heure du crime.
Eh bien, bel après-midi à l'écoute d'RTL. À demain.
À demain.
RTL. Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne conseil pour les laboratoires Vichy. Alors à quoi sont dues les taches qui apparaissent sur le visage?
Eh bien c'est dû à la mélanogénèse, un processus naturel qui s'accélère avec l'âge et le soleil.
Et on peut corriger ces taches?
Oui, et même les prévenir avec le protocole Lift Active B3 des laboratoires Vichy.
Comment?
D'abord, on applique le sérum Lift Active B3. Ensuite, la crème B3 jours SPF 50 pour protéger la peau des UV.
D'accord. Quels sont les effets?
Eh bien, après 2 mois d'utilisation, les taches diminuent de 65% en moyenne.
Super.
Et en plus, les laboratoires Vichy innovent avec la crème nuit Lift Active B3 anti-taches qui est enrichie en niacinamide et rétinol pur. Résultat, au réveil, l'hyperpigmentation est corrigée et la peau est visiblement plus éclatante.
Parfait. Et où trouve-t-on Lift Active B3 anti-taches?
En pharmacie, parapharmacie et sur vichy.fr.
Merci Fanny.
Étude clinique, mesure de la surface des taches brunes, 35 femmes, 2 mois.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
La police, la justice nous dit on n'a pas les preuves qu'il s'agit d'un meurtre. Moi, ma réponse, c'est apportez-moi les preuves qu'il s'agit d'un suicide. Elle m'a dit si un jour tu me vois dans les faits divers, faudra pas t'étonner.
Bonjour. Quand Joséphine Bernard, 27 ans, a été retrouvée pendue dans son appartement à l'hiver 2018, l'histoire de sa fin tragique a tout de suite été écrite et actée. Un suicide sur fond de désillusion sentimentale, nul besoin d'aller chercher plus loin. Les enquêteurs sont restés arrimés à leur certitude, laissant derrière eux un dossier inachevé, des investigations incomplètes et même douteuses. La famille de Joséphine, ses proches, ne vont jamais croire à l'hypothèse du suicide. Les parents de la jeune femme vont ainsi mener leur contre-enquête, remontant le fil des témoignages et des relevés téléphoniques. Une autre piste va alors apparaître, celle d'un crime. Des parents qui ont eu raison de s'obstiner car depuis quelques mois, c'est bien pour homicide volontaire que le dossier est rouvert. Mais qui pouvait donc en vouloir à cette jeune femme aux yeux bleus qui rêvait de bonheur tranquille? Qui gênait-elle? Qui sont ces personnes qui auraient pu voir en elle une rivale ou un obstacle? Question posée aujourd'hui à nos invités. Joséphine Bernard, un impossible suicide. Elle n'aurait jamais fait un truc pareil, ne serait-ce que vis-à-vis de ses parents et de ses frères qu'elle adorait. L'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. A tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan.
Si comme Ryan Gosling vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort mercredi au cinéma. Je vous fais des bisous.
Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL. En Pays d'Oc, grâce aux cépages, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Viognier, un cépage blanc au parfum de soleil.
Je suis tellement bien ici. Le soleil sublime mes arômes de fruits jaunes, abricots, pêches, mangues. Et si vous m'invitez, sachez que je donne le meilleur de moi-même à l'apéritif et que les sushis me réussissent parfaitement. Je dis ça, je dis rien.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184 €.
Venez le ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort très mystérieuse de Joséphine Bernard à l'hiver 2018. Cette jeune femme qui travaille à Disneyland Paris est retrouvée pendue chez elle en Seine-et-Marne. Guerre de doute pour les policiers. Il s'agit très certainement d'un suicide. Samedi 13 janvier 2018 au matin, Sylvie et Richard Bernard, qui habitent près de Bordeaux, sont surpris de ne pas avoir de nouvelles de leur fille. Joséphine, 27 ans, qui vit à 600 km de chez ses parents en région parisienne, n'est pas du genre à rester silencieuse. La dernière fois que la maman lui a parlé, c'était il y a 2 jours. Joséphine lui disait qu'elle allait prendre un peu de congé pour partir avec son copain, le papa. Finit par trouver le numéro de ce jeune homme, lequel indique que lui non plus n'a pas de nouvelles. Il va donc se rendre à l'appartement de Joséphine, en plein centre de la petite ville de Bailly-Romainvilliers, à 40 minutes de Paris. À 20h26, le compagnon, entré dans le logement avec sa clé, appelle en urgence le commissariat de Chécy. Il vient de découvrir le corps inerte de Joséphine. Elle s'est pendue. Les secours et la police sont sur place. Un médecin constate le décès. Il estime que la mort remonte à au moins 24 heures. Les policiers constatent que le corps est allongé à proximité de la porte d'entrée. La jeune femme, qui mesure 1,72 m, se serait pendue en position presque assise à une petite patère installée à seulement 1,50 m de hauteur. Un foulard de coton noir est noué autour du cou. Pas de traces de lutte, pas d'effraction, pas de vol dans le logement. Le petit ami, en état de choc, ayant du mal à parler, essoufflé et perdu selon un policier, raconte qu'il devait passer le week-end à Center Park avec Joséphine. Il avait dû annuler au dernier moment. Elle l'avait très mal pris. Richard Bernard, le papa qui avait un sombre pressentiment, a pris la route depuis Bordeaux. Il arrive à Bailly-Romainvilliers après la police. Il apprend alors que sa fille s'est suicidée. Elle n'a laissé aucun message. Dimanche 14 janvier, les parents Sylvie et Richard Bernard, abasourdis, ont bien du mal à croire que Joséphine a mis fin à ses jours. Tout le contraire de sa personnalité. Impensable qu'elle n'ait laissé aucune explication. Leur fille, qui travaillait à Disneyland Paris, était une femme joyeuse, pleine de projets, pas vraiment sujette à la dépression. Elle n'aurait jamais fait un truc pareil, ne serait-ce que vis-à-vis de ses parents et de ses frères qu'elle adorait, indique Pauline, l'une de ses meilleures amies. Vendredi 12, veille de la découverte du corps, elle a fait des courses à 16h dans un supermarché, sac retrouvé intacte dans l'appartement. Elle a conversé avec des copines sur une messagerie pour l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie d'enfance. Elle a aussi adressé un message à une cousine pour savoir ce que sa fille souhaitait pour ses 10 ans. Rien qui ressemble à quelqu'un qui veut en finir avec la vie, indique la maman. Malgré les doutes de la famille et des amis entendus au commissariat, la police n'en démord pas. « Nous connaissons notre métier, c'est un suicide », assure un fonctionnaire au père de Joséphine. Lundi 15 janvier, Sylvie Bernard, la mère, porte plainte contre X pour meurtre. La famille souhaite que des auditions soient menées, dont celle du petit ami. Le corps est transporté à l'hôpital de Meaux. Le parquet n'a curieusement pas ordonné d'autopsie, mais un simple examen. Le décès remonterait au vendredi 12 autour de 18h, soit juste après les derniers messages envoyés. Des traces rouges aux épaules ne sont pas expliquées. Quelques mois plus tard, la famille apprendra que le docteur qui a examiné Joséphine n'est pas du tout légiste et il n'est même pas inscrit à l'ordre des médecins. Pas d'enquête approfondie, pas de relevé ADN, pas d'expertise téléphonique. 3 jours seulement après la découverte du corps, toutes les affaires de Joséphine sont rendues aux parents, parmi lesquels ses téléphones et même l'écharpe qui lui serrait le cou. Les scellés apposés sur l'appartement sont levés. 3 jours. 3 jours seulement pour boucler une enquête aussi compliquée, enquête ouverte et puis refermée, il n'y a pas d'autre terme, avec cette certitude absolue des enquêteurs et des policiers locaux. C'est un suicide. On va voir ce que vont donner tout de même les auditions, dont celle du petit ami. Et le couple très spécial que formait Joséphine Bernard avec cet homme, ce sera dans la suite de l'heure du crime. On va venir à l'enquête qui va continuer quand même, avec difficulté, mais qui va se poursuivre. Mais il faut reprendre l'affaire au début. Il y a cette scène de suicide, selon les policiers, même si on est sûr de rien. Et on va voir que c'est une scène qui n'est pas tout à fait conforme à celle d'un véritable suicide. Bonjour Maître Corinne Herrmann.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Paris et dans cette affaire, vous êtes aujourd'hui l'avocate de la famille de Joséphine Bernard. On va entendre dans un instant Sylvie Bernard, la maman, qui est également l'une de nos invitées aujourd'hui dans cette heure du crime. Alors je le disais, Maître Corinne Herrmann, il y a cette jeune femme qui est pendue quasiment derrière la porte d'entrée à cette petite patère. Elle s'est pendue avec une écharpe noire en tissu. Ça va pas, il y a rien qui va tout de suite hein, dans cette scène. On ne comprend pas très bien.
Ça pose beaucoup de questions. C'est vrai que la petite patère, elle n'a pas été testée. C'est vrai que l'écharpe, on se demande si elle est susceptible de permettre une pendaison, parce qu'il y a certains tissus qui sont plus difficiles à entraîner une pendaison. C'est vrai que c'est une scène de crime qui peut être reconstituée. Ça peut être une mise en scène. Mm-hmm. Mais en tous les cas, le problème, c'est que ça n'a pas été exploité et vérifié. On a conclu tout de suite et on a tout de suite, finalement, fait disparaître un certain nombre d'éléments.
Comment expliquer ? Vous connaissez bien, vous, ce genre d'affaires et pénales et criminelles. On peut se tromper au début d'une enquête, mais là, il y a une persuasion de la part des enquêteurs et des policiers locaux. Ils disent « c'est un suicide », ils n'en démordent pas.
Eh bien, on ne peut pas se tromper, en fait, au début d'une enquête. On peut avoir une mauvaise évaluation.
Interprétation.
Voilà. Mais en fait, quand on est enquêteur, quand on est magistrat, on est là pour vérifier les choses. On n'est pas là pour avoir des convictions. On est là pour vérifier les choses. Et la première chose, c'est de vérifier. Or, ce n'est pas ce qui est fait. On est passé aux conclusions immédiatement et en 3 jours tout est balayé et tout est modifié, tout est, j'ai envie de dire, saboté parce que je vois pas d'autre mot.
Et là effectivement après c'est difficile, hein, vous le savez bien hein, Corinne Hermann, c'est difficile ensuite de rattraper le temps perdu hein, parce que les premières constatations elles sont capitales.
Alors les premières constatations sont capitales, heureusement il reste toujours un petit bout de quelque chose, c'est pour ça que je crois aux cold cases, vous le savez.
Tout à fait.
C'est vraiment une religion pour moi, tous ces dossiers, là c'est pas encore un dossier cold case au sens 30 ans après, on peut revenir sur une affaire et la résoudre, 6 ans après on peut revenir sur une affaire et la résoudre. C'est vrai que ce qui est un petit peu nouveau dans cette affaire, qu'on voit pas forcément dans ce type d'affaire habituellement, c'est qu'on a l'impression qu'on a fait disparaître ce qui pouvait nous permettre de travailler sur un homicide. Mais
Il y a du travail encore et on peut saluer la famille hein, de Joséphine qui a vraiment fait le travail qu'auraient dû peut-être faire les enquêteurs, ça arrive de temps en temps. Mais là, cette émission, effectivement, elle est dédiée totalement à Joséphine Bernard parce que c'est elle la victime et on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Bonjour Sylvie Bernard.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Je sais que pour vous, c'est un moment qui est un petit peu cruel parce qu'on revient sur cette affaire. Mais c'est important qu'on parle de Joséphine parce qu'il y a beaucoup de choses anormales qui se sont déroulées dans cette enquête. Et il est temps sans doute d'avancer sur le chemin de la vérité. Sylvie Bernard, tout de suite vous dites « le suicide c'est impossible ». Pourquoi vous dites ça tout de suite ?
Ben en fait au départ c'était clairement une intuition de parents parce que ben on connaît Joséphine hein, c'était un rayon de soleil notre fille une joie de vivre absolue et puis elle n'a jamais donné le moindre signe de la moindre même pas un état de dépressif, rien, jamais. C'est une battante. Elle avait une force phénoménale. Elle adorait son travail. Elle était bien installée dans son appartement. Elle était loin d'être isolée, aussi bien en termes de famille qu'en termes d'amis. Donc, déjà, voilà. Au départ, c'était le profil de Joséphine. Et surtout aussi, par contre, je savais, parce qu'elle m'avait parlé de sa liaison, évidemment, et elle me l'avait présentée comme une liaison un peu compliquée, parce qu'elle n'était pas acceptée par la famille de son petit copain.
Alors ça, on va y revenir, effectivement, ça vous fait tiquer, là, tout de suite, la famille, cette liaison qui est compliquée, avec cette vie mouvementée. Absolument. Avec cette vie mouvementée, dont on va revenir dessus, Sylvie Bernard. Mais je voudrais quand même savoir, lorsque vous allez au commissariat, vous racontez tout ça, votre fille, elle donnait des nouvelles, elle n'est pas suicidaire, etc. On vous croit pas ?
Ah non, pas du tout, non. On ne croit pas. On ne croit pas. Je suis une maman dans le déni. Eux, c'est leur métier. Ils savent ce que c'est. C'est très très difficile de maquiller un suicide en homicide. C'est pas possible. Voilà. Joséphine était trop déçue parce que son petit copain finalement a annulé son week-end à la dernière minute. Enfin.
Ouais. Donc ça effectivement, ça tient pas. D'ailleurs, parce que les amis de Joséphine qui la connaissent moins que vous, mais qui la connaissent, vont dire que c'est pas possible. C'est pas du tout son genre. Est-ce que vous êtes... Encore une question,
Sylvie. Mais même pas que les...
Allez-y, je vous en prie.
Même pas que les amis, toute la famille, enfin, toute notre famille, enfin, ça correspond pas. Mm-mm. Ça correspond pas au profil de Joséphine.
Encore une question, Sylvie Bernard. Vous êtes surpris par le fait qu'on on vous redonne, on est trois jours après, on vous donne toutes les affaires de Joséphine. Il n'y a plus de scellés sur l'appartement, on vous donne même l'écharpe avec laquelle elle se serait pendue. Je pense que pour une famille, c'est épouvantable. Je ne sais pas, enfin, j'ai rarement vu ça dans une affaire.
Ouais. Ben, on a surtout, enfin, oui, tout ça, ça nous a vraiment stupéfaits, mais ce qui nous a scotché aussi, c'est que même l'enquêteur en charge du dossier, enfin, de ce qui était censé être l'enquête, nous a ouvert les scellés, a ouvert la porte de l'appartement, il nous a donné les clés en nous souhaitant bon courage et il est parti. Il n'est pas rentré dans l'appartement où a eu lieu le crime, enfin.
Ouais, bah, c'est pas parce que l'affaire.
Et,
Oui, parce que l'affaire, effectivement, elle était pour eux, elle était pliée. Voilà, c'est tout.
C'est ça. C'est ça.
Et donc, et ça, effectivement, on peut se poser quand même des questions sur ce départ d'enquête, Maître Corinne Herman. Un mot quand même sur cette autopsie qui n'en est pas une. Là aussi, il y a un mystère, parce que dès lors qu'il y a un suicide, très souvent, je ne dis pas que c'est systématique, mais très souvent, il y a une autopsie qui est ordonnée, parce qu'on ne sait jamais trop si la personne a pu être empoisonnée, etc. Là, il n'y a rien.
Non, et une mort violente, c'est automatiquement un obstacle médico-légal et une autopsie. Donc, c'est le minimum, mais quand on ne veut pas explorer, quand on a un biais d'analyse, qu'on part d'une hypothèse avant de la vérifier, eh bien on en arrive à tout faire de travers et avec des personnes qui ne sont pas professionnelles.
Juste en mot, avec un médecin qui n'est pas médecin.
Alors, un médecin qui a quand même les compétences, mais un médecin qui n'est pas un médecin habilité à faire des levées de corps et à faire de l'autopsie.
La famille veut des éclaircissements sur le petit ami, il va donc être entendu. Joséphine Bernard, un impossible suicide. Avec cet homme, elle vivait une relation toxique. Il lui mentait. Il ne voulait pas qu'on découvre qu'il continuait à la voir. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL présente l'exposition Achille et la guerre de Troie au musée de la Romanité à Nîmes. Plongez au cœur de cette épopée mythique à travers une centaine d'œuvres exceptionnelles et une fresque numérique immersive. Achille et la guerre de Troie, actuellement au musée de la Romanité à Nîmes avec RTL.
Visio Confucius, tu vois ? Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Si tu dors mal à cause des stores en panne,
Service Store trouve la pièce qui te dépanne.
2000 pièces made in France ou en Europe.
Moteur de store, volet roulant, toujours au top.
Alors pour un sommeil réparateur,
répare tes stores chez un leader.
Connecte-toi sur servicestore.com.
Servicestore.com, choix et qualité,
c'est tout comme.
RTL Matin, l'angle éco.
Les grandes entreprises internationales ne cessent de grossir, François, au point qu'elles représentent maintenant des forces économiques considérables dans nos pays.
C'est vrai. Prenez LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. C'est aujourd'hui la première capitalisation boursière en France, de très loin. LVMH exporte aujourd'hui davantage que toute l'agriculture française.
L'angle éco à 7h35. 14h30, 15h30.
L'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime, consacrée aujourd'hui à la mort controversée de Joséphine Bernard, 27 ans, janvier 2018, dans son appartement en Seine-et-Marne. Suicide par pendaison, affirme la police. Enquête express, la famille et les amis penchent pour un crime. Le petit ami va être interrogé à trois reprises. Lundi 15 janvier 2018, celui qui est présenté comme le compagnon de Joséphine Bernard est entendu pour la première fois par les enquêteurs. Il fréquentait la jeune femme depuis 4 ans. Il s'était connu à Disneyland Paris où il travaille comme agent de sécurité. Un coup de foudre, Joséphine était très amoureuse de lui, va témoigner une amie de la victime. Joséphine avait toutefois eu la surprise de découvrir un an plus tard que cet homme était marié et avait un enfant. Il lui avait caché cette double vie. Face aux policiers, le témoin indique que deux jours avant la découverte du corps, il s'est pris la tête avec Joséphine. Jeudi 11, elle l'a appelé pour lui dire qu'elle avait réservé un week-end en amoureux à Center Park. Il lui a annoncé qu'il ne pouvait pas venir. Ils se sont disputés. Elle l'a rappelé à 17h52 et lui a dit « Si t'es plus dans ma vie, je vais me suicider ». Selon le petit ami, Joséphine était familière de ce genre de menaces. Une fois, dit-il, elle avait voulu se jeter par la fenêtre. Réentendu 2 semaines plus tard, le témoin revient sur ses propos. Il ne se souvient plus vraiment du coup de fil de 17h52. Il ne fait plus allusion à de quelconques pensées suicidaires de la victime. Il se rappelle simplement que Joséphine insistait pour qu'il se libère car elle avait besoin de passer ce week-end de repos avec lui. Pour le vendredi 12, jour où la jeune femme est morte, il a un alibi. Il était à Troyes, dans l'Aube, avec sa femme et un couple d'amis. Ils sont rentrés le soir. Le père de Joséphine l'a alors appelé. Il s'est rendu à l'appartement et a découvert le corps. La famille de Joséphine Bernard et ses amis étaient au courant de cette relation sentimentale agitée entre la jeune femme et son collègue. Une quinzaine de ruptures éphémères et de réconciliations. Une copine de la victime explique que Joséphine était habituée aux absences imprévues de son compagnon. Elle se mettait toujours en colère, mais jamais elle se serait suicidée pour un homme et encore moins pour un week-end fichu, dit-elle. Un ami de travail de Joséphine décrit une liaison toxique avec un individu peu fiable et qui a toujours cherché des excuses pour justifier ses absences. Des témoins expliquent que l'agent de sécurité mentait fréquemment en raison de sa situation d'homme marié. Il ne voulait pas que sa famille et sa belle-famille, qui n'appréciaient pas cette liaison, apprennent qu'il continuait à voir Joséphine. Mercredi 30 mai 2018, le procureur de Meaux annonce aux parents de Joséphine Bernard que le dossier est classé sans suite. La thèse du suicide est privilégiée. L'enquête n'a pas permis de dégager d'autres pistes. Entre-temps, les parents ont constaté que le compte Google de leur fille a été activé dans les heures suivant sa mort. Activation manuelle, selon eux. Un policier leur a confié, en tête-à-tête, que la scène de découverte du corps était très inhabituelle. Il les a encouragés à poursuivre leurs investigations. Les parents ont ainsi découvert que le podomètre de Joséphine a comptabilisé 30 pas juste avant le décès, l'équivalent d'une descente du 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée de son immeuble. Serait-elle descendue pour ouvrir la porte à quelqu'un qu'elle connaissait ? 19 juillet, les parents déposent plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire. Un juge d'instruction est désigné. Le corps de Joséphine est exhumé. 7 mois après la mort, l'autopsie ne permet pas de déceler un acte criminel. Le légiste maintient l'hypothèse du suicide, même s'il note que trop de temps s'est écoulé pour réaliser cette autopsie. Un délai préjudiciable, écrit-il. Selon lui, seule l'enquête auprès des proches pourra dire si Joséphine Bernard s'est donné la mort. Des proches, des parents qui sont loin d'en avoir fini avec les surprises et les rebondissements, des téléphones qui ont été vidés de leur contenu, comme si aucun message n'avait été échangé, ou encore une jeune femme qui ne se sentait peut-être pas vraiment en sécurité. On va se pencher sur ces mystères dans les prochains chapitres de l'émission. Là, le compagnon est entendu par les enquêteurs 3 fois. Une première fois, il dit que Joséphine avait menacé de se suicider. Sylvie Bernard, vous êtes la maman de Joséphine Bernard et vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être avec nous dans l'heure du crime. On va essayer de vous aider. Encore une fois, cette émission, elle est dédiée à votre fille, Joséphine. Cet homme, vous m'avez dit tout à l'heure, vous le connaissiez. Joséphine, vous en parlez assez souvent de ce compagnon, entre guillemets.
Alors, Joséphine m'en parlait, on l'a rencontré plusieurs fois, oui. Il est même venu à la maison.
Qu'est-ce qu'elle vous disait sur ses relations avec lui ? C'était un peu compliqué ?
Pas ses relations avec lui. Ses relations avec lui n'étaient pas compliquées. C'était les relations entre elle et la famille. Ils lui disent, enfin, de ce que Joséphine me disait, c'est qu'elle ne pouvait pas rencontrer la famille de son petit ami parce que elle n'était pas la bienvenue. C'est difficile à dire, mais c'est une famille de religion musulmane. Mmh. Joséphine était européenne, blanche et
catholique.
Non, musulmane, donc non musulmane en tout cas.
Elle n'était pas
acceptée.
Elle n'était pas acceptée. Elle se sentait rejetée. Et cette famille, ne la portait peut-être pas dans son cœur. Son alibi.
Même pire que ça, elle recevait régulièrement, et ça justement, l'étude des fadettes de son téléphone le montre. Elle recevait des appels anonymes et qui en fait émanaient de personnes de proches de la famille du petit ami et elle a dû changer de numéro de téléphone 2 fois et son profil Facebook aussi, elle l'a modifié plusieurs fois, et quand je lui demandais pourquoi, elle me disait que c'était pour éviter les indésirables, qu'elle me disait, donc sans me préciser vraiment de qui il s'agissait, mais...
Est-ce qu'elle souffrait, Joséphine, de cette situation un peu compliquée? Elle pouvait pas voir, entre guillemets, sa belle famille, cet homme était marié ou en couple avec un enfant, ça faisait beaucoup peut-être pour elle, non?
Oui, je pense, forcément, je pense qu'elle en souffrait, c'est évident. Mais je pense aussi qu'elle se protégeait et qu'elle ne voulait pas s'engager davantage tant que les choses n'étaient pas réglées. À savoir, en fait, cet homme n'était pas marié administrativement parlant. C'était un mariage religieux là aussi. Mmh. Donc, l'analyse de messages entre elle et une de ses amies montre qu'en fait, elle explique bien que elle voulait absolument que quand elle a découvert ce mariage, la première chose qu'elle voulait, c'est qu'il fasse le nécessaire pour que ce mariage soit annulé, parce qu'elle savait bien l'importance que ça pouvait représenter
bien sûr
de la communauté, et donc elle voulait que ce mariage soit annulé. Quand elle a appris qu'il avait un fils, elle a insisté, il fallait absolument qu'il lui présente son fils. Elle a donc rencontré plusieurs fois son fils. Donc elle en souffrait, c'était une bataille pour elle, mais justement elle se battait, quoi. Elle n'était pas du tout du genre à se faire du mal à elle. C'était... Voilà.
Maître Corinne Herman, on entend la maman, Sylvie Bernard, la maman de Joséphine. Vous êtes avocate et vous défendez cette famille, la famille de Joséphine. Alors, je l'ai dit, parce que c'est important dans cette affaire, la famille mène l'enquête à sa façon et avec les moyens dont elle dispose. Et il y a beaucoup de surprises qui apparaissent. Il y a ce téléphone qui a été activé après, normalement, l'heure de la mort de Joséphine, son téléphone. On ne sait pas pourquoi, mais il est activé. Puis il y a l'étude du podomètre aussi. Mmh. On sait qu'elle s'est déplacée. Alors là, c'est vraiment juste avant son décès.
Ce qu'on sait exactement, c'est que le téléphone s'est déplacé. Ou en tout cas, que le podomètre a fonctionné et a marqué des pas. Mais vers où, même si ça a été reconstitué par la famille, qu'ils ont vérifié combien de pas pouvaient correspondre à l'ouverture de la porte, de l'immeuble, etc., ou de l'appartement. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est déplacé, qu'il y a des pas. Mais on ne sait pas vers où, on ne sait pas pourquoi.
Parce que le papa a refait le trajet.
Mais hein, exactement.
Ça, c'est étonnant, mais il a refait le trajet et on s'aperçoit qu'en descendant du troisième au rez-de-chaussée, en remontant, on arrive
voilà.
à ce
Mais c'est l'hypothèse de la famille. Et ce qui est atterrant dans ce dossier, c'est que ça n'est pas vérifié par les enquêteurs, ça n'est pas analysé, que les appareils ne sont pas pris analysés de façon sérieuse et qu'on n'a pas évalué toutes les hypothèses qui auraient peut-être pu nous apporter une réponse. Donc c'est l'enquête des parents. Et elle a un sens, c'est un élément nouveau au dossier, mais ça n'est pas exploité ni par la justice ni par les enquêteurs comme ça devrait, et c'est ça qui est inquiétant. Et souvent les familles, j'ai d'autres cas du même style, les familles vont à la pêche aux informations, ils font l'enquête elles-mêmes avec les moyens dont elles disposent, mais c'est quand même atterrant dans ce type d'affaires qu'on n'ait pas des enquêteurs qui tout de suite prennent les choses en main et vérifient les choses.
Oui, il y a un manque d'écoute, et puis les parents ils sont pas reçus par le juge,
etc. Un manque d'envie.
Voilà, c'est ça, il y a un manque d'envie. Alors, il y a l'autopsie aussi, Maître Corinne Herman, ça c'est important, il faut en dire un mot. Elle arrive, la vraie autopsie, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu une étude du corps qui a pratiquement rien donné, la véritable autopsie, elle arrive, c'est trop tard. Le corps a été exhumé, je l'ai dit.
Oui, le corps a été exhumé. Ça n'est pas trop tard. Il y a des éléments à exploiter dont je ne peux pas parler aujourd'hui parce que, évidemment, on va essayer de refaire des demandes et de faire avancer tout cela. Il y a des traces qui sont constatées quand même. Puis il y a les traces qui sont absentes, qui devraient être présentes en cas de suicide ou de pendaison. Donc il y a des traces à réinterpréter. Une exhumation, ça n'est jamais trop tard parce qu'on le demande. On a des dossiers, on a fait dans un dossier 36 ans après une exhumation et on a eu des réponses et des nouvelles plaies, des choses qui ont été constater. Simplement, il faut avoir des spécialistes, il faut avoir des personnes qui connaissent les traces, en tout cas qui correspondent ou à une pendaison, à une strangulation ou en tout cas à une agression. Et il va falloir réinterpréter tout cela, mais il reste des traces. Simplement, elles n'ont pas été interprétées par les médecins ou par les experts qui ont regardé. Et ils ne sont peut-être pas allés au bout des vérifications. Il y a peut-être encore des choses à faire.
Donc il y a des choses à faire.
Oui, ça n'est jamais trop tard parce que je le dis régulièrement à nos clients dans des affaires qui ont plus que 6 ans. On fait des exhumations information et on constate des choses. Encore faut-il regarder avec soin les choses, le faire avec soin et être un peu spécialisé dans la matière.
Enquête qui redémarre donc très tardivement avec toute une suite d'expertises et de vérifications. Joséphine Bernard, un impossible suicide. Elle vivait mal notre relation. Elle voulait être la compagne numéro 1. L'enquête de l'heure du crime, mais pourquoi toutes les conversations téléphoniques ont-elles disparu? Que fallait-il cacher? C'est à suivre dans un court instant sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Ce mardi, jackpot Euromillion de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Enfin, au livre de poche, L'heure des femmes, d'Adèle Bréau. Inspirée par la figure de sa grand-mère, Ménie Grégoire, célèbre animatrice radio, Adèle Bréau explore un demi-siècle d'évolution de la condition féminine à travers la destinée de quatre héroïnes, des années 60 à nos jours. L'heure des femmes, d'Adèle Bréau, une fresque résolument romanesque, au livre